Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes si vous nous écoutez à la radio, plus encore si vous avez choisi de nous suivre en podcast. Je vous parle aujourd'hui depuis le 15e arrondissement de Paris, dans une salle qui est située à deux pas de la tour Montparnasse. Autour de moi, beaucoup de gens se pressent pour participer au forum Médias et Développement. C'est un événement organisé par CFI, l'Agence française de développement média, filiale de France Média Monde, le groupe audiovisuel français qui chapeaute notamment RFI et France 24. L'atelier des médias de RFI a installé un studio un peu à l'écart de ce joli petit monde. On parle quand même de 200 acteurs des médias venus de 30 pays. Ils participent à des séances plénières, des ateliers, des moments d'échange, de pratiques, d'innovation, de difficultés, mais aussi de solutions, évidemment. En fin d'émission, le directeur Afrique de CFI nous parlera du développement média sur le continent africain. Avant lui, un journaliste algérien nous racontera ce que ça change de pratiquer l'investigation au sein d'un réseau de médias. Mais pour commencer, j'accueille une photojournaliste indépendante en Irak. Elle est face à moi. Elle s'appelle Barfi Ali Bachar. Bonjour. Vous êtes irakienne de la minorité yézidi, c'est une minorité confessionnelle kurdophone qui vit en Irak et était l'objet d'un génocide, c'est le terme qui avait été utilisé il y a 3-4 ans par l'ONU, un génocide de la part du groupe État islamique. Barfi Ali Bachar, vous êtes restée sur le terrain à Sinjar et sur les monts Sinjar avec les survivantes et survivants yézidis et vous êtes photojournaliste. Expliquez-nous si le fait d'être photojournaliste a été déterminant dans le fait de rester sur le terrain pour raconter l'histoire qui était en train de se passer.
Oui, bonjour. En fait, oui, je suis de minorité yézidi, que nous avons vécu une horrible guerre. Quand Daesh est arrivé en 3 août 2014, j'étais tout près de Sinjar dans un village. Daesh a commencé à arrêter les gens. Il a enlevé plusieurs familles, femmes, enfants. Il a tué les hommes. Et il a détruit, en fait, nos villages. Et nous sommes été obligés de quitter nos maisons pour s'échapper de Daesh. Ils ont arrêté plusieurs filles yézidis. Ils ont été vendus en fait dans les marchés esclavage. Moi personnellement, je voulais aider mon peuple. Je voulais pas sortir. Je voulais pas aller en fait dehors de mon pays. Je voulais rester pour aider mon peuple qui ont vécu une horrible génocide. C'est pourquoi j'ai commencé à apprendre la photographie et raconter notre histoire à travers de photos et de photojournalisme, parce que je voulais devenir une voix pour mon peuple. C'est pourquoi j'ai participé dans une formation, j'ai commencé par une formation de photojournalisme qui m'a donné en fait le courage pour m'exprimer et aussi un outil pour travailler comme journaliste. Je voulais absolument que le monde entier connaisse notre histoire et ce message vient d'une fille yézidie de cette minorité.
Et vous expliquez aussi avoir voulu vous servir de votre appareil photo comme d'une arme pour combattre avec. Expliquez-moi ce que ça veut dire.
En fait, ce que nous avons vécu, c'était très dur. Et c'était une véritable guerre. Et pour moi, la photographie et la caméra, c'était exactement comme vous dites. C'était comme une arme. Je voulais me défendre et aussi porter le message de mon peuple. Après le génocide, il y a beaucoup de monde qui ont décidé de se battre. Il y a qui sont devenus combattantes. Il y en a qui sont devenus, en fait, qui ont commencé à écrire. Donc, leur stylo, c'était leur plume, c'était comme un arme. Et moi, mon appareil, c'est toujours pour moi, c'est comme un arme. Parce que c'est à partir ou à travers de cet appareil que je parle de ce qui se passe sur mon peuple.
Barfi Ali Bachar, vous êtes une membre active de l'association Aide humanitaire et journalisme. Vous avez également travaillé sur le projet Tassala, porté par CFI, pour justement apporter ce que vous aviez appris sur la photographie auprès des femmes yézidis. Expliquez-nous très concrètement ce que vous faites maintenant ces jours-ci sur le terrain.
Je travaille aujourd'hui dans le centre de camp de Khanke, c'est un centre social pour les enfants et les enfants et les femmes survivantes, et aussi toute la famille qui ont besoin d'aide. Je suis intervenante sociale et en même temps je suis photojournaliste et je continue tout ce que j'ai appris par rapport à ce programme que nous avons eu avec HSFI, et c'est pourquoi quand j'ai reçu les matériels, j'ai commencé un nouveau reportage sur une famille que j'ai rencontrée il y a 2 ans qui s'échappait de Daesh. C'est une famille, une femme qui a vécu 2 ans chez Daesh, et ils ont été prises, toute la famille, son mari et son grand-fils, ils ont été séparés, et elle, pour sauver sa petite fille de 10 ans, elle a menti, elle a dit que sa petite fille, elle a une maladie dangereuse pour que, en fait, les États islamiques ne prennent pas son enfant. Quand elle s'échappait et elle a retourné, elle était dans un camp auprès de notre camp, mais c'est un camp qu'il y a des Arabes et il y a aussi des familles de Daesh. Elle avait vraiment peur. Et moi, j'ai essayé de lui faire sortir de ce camp et elle est venue dans notre camp. On est devenus amis. Et chaque fois, quand elle avait besoin d'aide, quand elle devait aller à l'hôpital ou de faire des choses administratives, j'étais avec elle. Et en même temps, je le filmais. Je prenais des photos. J'ai fait une histoire sur elle qui s'appelle Nouri. Jusque le moment qu'ils ont entré dans un programme de gouvernement canadien, ils sont sortis du pays et maintenant ils vivent au Canada. Son fils, le grand-fils, nous avons retrouvé, et c'était grâce à mon reportage qui était publié dans le magazine de Daraj en Liban, en arabe. Nous avons retrouvé son fils parce que son fils était dans les groupes des enfants en Syrie qui ont été libérés par les combattants kurdes, et c'est pourquoi je suis allée même aux frontières pour filmer son fils. J'ai pas réussi, ils m'ont pas donné l'autorisation pour le filmer, mais j'ai réussi quand même de prendre quelques photos et le suivre jusqu'à aujourd'hui. Le fils, le grand-fils, il est toujours dans le camp et il attend en fait qu'il puisse intégrer sa famille au Canada. La deuxième histoire que j'ai travaillée et je veux encore travailler dessus, c'est une fille qui est devenue mon amie aussi. Elle est prise par Daesh à l'âge de 13 ans. Son histoire est très très dure parce qu'elle n'avait qu'un frère et son frère était un jeune marié de 6 mois. Et Daesh a tué son frère devant ses yeux. Il a pris sa femme. Ils m'ont pris aussi, ils nous ont séparés et ils ont vendu plusieurs fois. Et après, finalement, elle a réussi de s'échapper, elle est entrée dans le camp de Khanke, et c'était à ce moment-là que j'ai rencontré cette fille yézidi de petit village qui était attaqué, le premier attaque de Daesh. Et elle est toujours dans le camp, elle vit dans une condition très très difficile, et je le filme, je le suis et je raconte son histoire. Et c'est pourquoi je vous avais dit que je suis content d'être ici, parce que je suis en train d'apporter des histoires de mon peuple en tant que journaliste.
Et d'ailleurs, c'est la première fois que vous venez en France, mais aussi la première fois que vous venez en Europe. Barfi Ali Bachar, j'ai une question très personnelle à vous poser. Que pense votre famille de cette vie d'engagement ?
En fait, au début, mes parents, ils n'ont pas été d'accord. Surtout, mon père était vraiment contre que sa fille devienne journaliste, qu'elle sort, qu'elle prend l'indépendance, parce que pour lui, les filles ne doivent pas sortir toutes seules. Et dans la société, dans la culture yézidi, nous n'avons pas des femmes journalistes. Et c'est une culture qui est inconnue, en fait. C'est la culture du journalisme. C'est inconnu dans notre communauté. Et au début, c'était très difficile à convaincre mon père. Par exemple, la première fois, quand je suis sortie du pays, j'ai voyagé, mon père n'était pas d'accord du tout. Et c'était ma mère qui a essayé de vraiment convaincre mon père pour qu'il me laisse partir. Et moi aussi, j'ai essayé de le faire comprendre que je vais devenir une voix pour mon peuple. Je vais devenir vraiment une voix qui peut aider le peuple yézidi. Et moi, j'ai un objectif. Et mon objectif, c'est ça, c'est devenir une journaliste et de parler en tant que journaliste. Et c'est pourquoi pourquoi c'était très, très difficile pour moi jusqu'à ce moment pour arriver ici. Mais en même temps, je reçois beaucoup de messages auprès de la part de mes amis et même des personnes yézidis qui ne me connaissent pas sur les réseaux sociaux et ils sont très fiers de moi, ils sont fiers de ce que je fais et ils me remercient pour ce que je fais.
Une dernière question, l'Irak est un pays qui continue à se déchirer. Les journalistes et les médias irakiens ont-ils selon vous un rôle à jouer pour promouvoir la cohésion sociale en Irak et si oui, que doivent-ils faire ?
Oui, évidemment, il y a la guerre civile en Irak. Par exemple, même dans les villages à Sinjar, il y a la guerre. Et c'est pourquoi que c'est très important que nous, en tant que journalistes, on puisse vraiment faire quelque chose pour que ces gens s'entendent bien ensemble. Moi, j'ai travaillé une fois avec le camp de Demis pour les réfugiés syriens. Et ça, c'était une maison des artistes qu'ils sont venus dans notre camp. On a fait un lien ensemble, les yézidis et les réfugiés syriens. Et c'était très, très bien pour notre communauté. C'était très bien pour notre camp parce que les yézidis, ils ont commencé à connaître les réfugiés syriens. Et ça, c'était un échange assez positif entre nous. Et moi, je veux encore continuer plus que ça. Je veux aller plus loin. Je veux aller rencontrer des autres. Je veux même sortir. C'est pourquoi j'aime bien venir et voyager parce que je rencontre d'autres gens. Je veux apprendre sur les autres communautés pour qu'on puisse vivre ensemble, mais dans une bonne façon.
Merci beaucoup, Barfi Ali Bachar. Merci également pour la traduction à Shaïda Issaimi, qui est directrice générale de l'association Aide humanitaire et journalisme.
L'atelier des médias.
Je vais maintenant demander à un journaliste d'investigation algérien de me rejoindre dans ce studio mobile de RFI. Lias Halas, bonjour.
Bonjour Steven.
Vous êtes journaliste d'investigation, membre du consortium international des journalistes d'investigation, l'ICIG, auteur de plusieurs enquêtes, notamment sur les Swiss Leaks et les Panama Papers. Vous vivez à Alger, c'est bien cela ?
Oui, à Alger.
Et vous êtes journaliste indépendant. Et vous collaborez avec des médias étrangers, comme Le Monde, Libération, Mediapart, Middle East Eye ou encore Daraj, le pure player libanais. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est vous êtes journaliste indépendant en Algérie et vous étiez le seul dans votre pays à avoir travaillé sur la gigantesque enquête dite des Panama Papers. Comment est-ce que vous avez été contacté ? Comment ça s'est passé pour être associé à ce truc énorme ? On parle quand même de téraoctets de données, de 11 millions de documents, un truc qui était vraiment massif à travers le monde, des journaux de tout pays, des médias de tout pays. Comment est-ce que vous, seul journaliste indépendant en Algérie, vous êtes retrouvé là-dedans ?
Je suis journaliste depuis maintenant 13 ans. Je faisais déjà auparavant des enquêtes économiques. Je suis spécialisé en économie, même si je circule entre des rubriques. Mais après, il existe des réseaux dans notre région qui, je cite Alij, qui organise une conférence annuelle, qui est un rendez-vous plutôt international et non pas régional, où des journalistes du monde entier s'y retrouvent pour échanger, pour discuter de l'évolution du métier, des projets, etc. Et les choses se font naturellement dans ce genre de réseau, c'est-à-dire on discute de projets, etc. En général, bien sûr, c'est-à-dire se retrouver dans un réseau, c'est toujours le contact humain.
C'est de la cooptation ?
En quelque sorte, oui.
D'accord. Et pour rester juste un petit peu sur les Panama Papers, l'impact de votre travail a été au final très concret en Algérie. Comment vous l'expliquez ?
Les Algériens étaient déjà demandeurs d'une nouvelle offre d'information à un moment où la presse algérienne s'est recroquevillée sur elle-même. Elle posait plus des questions qu'elle posait auparavant ou elle posait pas ce genre de questions déjà à la base. Et donc, c'est traditionnellement une presse d'opinion. Et donc, ces nouvelles enquêtes qui parlent de choses concrètes ont trouvé un écho chez l'opinion qui c'était quelque chose de nouveau qui...
Donc vous avez étudié ces 11 millions de documents et vous avez trouvé qu'il y avait des proches de personnalités au pouvoir qui avaient placé de l'argent à l'étranger, par exemple.
11 millions de documents, les choses ne se passent pas comme ça. 11 millions de documents, c'est 2,6 teraoctets de data, en fait. On a mis une organisation en place qui permet aux membres engagés dans le projet, etc., à faire des recherches à distance, moyennant des identifiants. Et donc, chacun va à la pêche dans son terrain. Après, on se partage ce qu'on découvre ensemble dans un cordial échange de bons procédés. Ça passe comme ça.
Vous attendiez à trouver autant de choses pour votre pays,
l'Algérie ? Pour le pays, pour l'Algérie, oui. Oui.
Comment se porte le journalisme d'investigation en Algérie actuellement ? Y a-t-il d'autres journalistes que vous qui font de l'investigation ?
Je suis pas né du Nil comme ça, je suis un extraterrestre. La presse algérienne, quand même, a une tradition. Même si, parfois, disons que le système médiatique tel qu'il fonctionne aujourd'hui ne produit plus de ce genre d'informations ou ce genre de contenu. Mais quand même, il avait une tradition, même si on ne le fait pas comme... c'était pas l'enquête en réseau, mais au sein des journaux, il y avait de la place pour faire des investigations. Donc,
et vous,
ce qui a changé, c'est que l'exercer au sein d'un réseau, selon de nouveaux protocoles et de nouvelles règles.
Et donc vous avez plus de liberté, justement, du fait de ne pas être dans un média installé, d'être indépendant ?
Oui, quand on est indépendant, on a plus de marge de... Après, il faudra trouver un éditeur pour éditer. Le problème qui se poserait après, éventuellement, c'est que même pour les médias algériens, étrangers, ils peuvent pas tout publier. La règle de proximité impitoyable. C'est-à-dire, si les journaux locaux ne font pas ce genre d'enquête, ça veut dire, ça limite un peu le champ d'action pour, parce que pour un média étranger, il va pas s'intéresser à certaines choses, peut-être. Ça l'intéresse, disons, politique, exposé politiquement, etc. Même s'il y a d'autres faits qui concernent de petits entrepreneurs, ça n'intéresse pas vraiment un média étranger.
Puis avec la question de la langue aussi, le fait de publier une information en arabe en Algérie aura peut-être plus d'impact que si vous la publiez en français, peut-être ?
Oui, je me suis rendu... moi j'ai commencé ma carrière dans un journal francophone, même si j'écris en arabe. Après, je me suis rendu compte, après la publication des Swiss Leaks, qu'il y avait une demande assez forte pour la traduction de ces enquêtes. Et maintenant, j'ai pas traduit toutes les enquêtes, bien sûr, mais depuis un moment, depuis l'existence de Daraj, je collabore avec eux depuis l'Algérie. J'écris en arabe et donc ça a de l'impact. Les gens sont demandeurs d'une nouvelle offre d'information.
Vous participiez tout à l'heure à un atelier où une des participantes a dit que la première chose que cela change et que ça implique de faire de l'investigation en réseau, c'est la rigueur. Vous êtes d'accord avec ça ?
C'est acquis, c'est le béaba du métier, la rigueur. Ça, je dirais plutôt. Ce qui change dans l'investigation en réseau, c'est d'abord, c'est un peu une économie du temps et de l'argent. Et le résultat, ça est forcément meilleur. J'ai côtoyé beaucoup de journalistes de différentes nationalités, des 51 ans, et je me dis aujourd'hui, je pense que cette idée reçue, comme quoi qu'il y a des journalistes professionnels et d'autres moins, etc. En ce qui concerne dans notre réseau, le travail, la collaboration se fait naturellement, on partage les mêmes valeurs, on travaille selon les mêmes normes et standards, etc. Et donc ça se fait.
Et le réseau aussi peut apporter beaucoup plus de visibilité avec l'idée qu'un même article peut être publié par plusieurs journaux en même temps.
Oui, il peut être publié par plusieurs journaux en même temps dans la mesure. Si ce contenu intéresse bien sûr le média concerné. Je cite mon enquête publiée sur le scandale de corruption de Sonatrach, où on a trouvé beaucoup de documents dans les Panama Papers. On a travaillé, c'était une vraie enquête transfrontalière, on a travaillé à trois sur le sujet, avec Will Witzgibbon qui a pris le volet américain de l'enquête, Leo Sisti, qui travaille pour l'Espresso et qui a pris le volet italien. Leo est connu pour être l'auteur d'une enquête majeure sur la Banque du Vatican. Et moi, j'ai pris le volet algérien de l'enquête. Bien sûr, on s'est partagé nos découvertes, nos des documents, aussi échanger des points de vue, etc., discuter des hypothèses, vérifier des informations. Oui, le résultat était meilleur. Nous l'avons publié en trois langues. Will l'a publié sur le site l'ICIAG en anglais, moi je l'ai publié sur le journal Le Monde en français, et Léo l'a publié à l'Espresso en italien. Il y a une consoeur norvégienne qui s'est intéressée au sujet, elle n'a pas participé à l'enquête, mais elle a publié une bonne synthèse dans sa langue norvégienne.
Le Consortium international des journalistes d'investigation vous propose-t-il des formations pour parfaire votre pratique de l'investigation ?
On ne le fait pas, ce n'est pas la vocation du réseau. Bon, mais en étant membre du consortium, ça ouvre des perspectives. Voilà. Mais ce n'est pas la vocation du consortium.
Et le consortium travaille-t-il en permanence ? C'est-à-dire que vous travaillez en permanence, ou alors c'est simplement un réseau qui maintenant vous est ouvert et avec lequel vous allez utiliser pour contacter quelques personnes dans le réseau ponctuellement ?
Écoute, ce réseau, ce n'est pas uniquement Silix. Ça, c'est exceptionnel, ça intervient à un moment.
Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que les leaks, c'est une fois tous les ans,
c'est exceptionnel. C'est pas ça la logique de l'enquête en réseau. On peut travailler ensemble sur sous-vertes. C'est-à-dire, le principe, c'est de pouvoir compter sur des collègues. C'est-à-dire, on a une valeur acquise, c'est qu'on se considère pas comme conquérant, mais comme partenaire. Dans un monde globalisé où le crime organisé est globalisé, l'évasion fiscale, la corruption, etc., face à tous ces enjeux aujourd'hui, le journalisme aussi doit, les journalistes aussi doivent collaborer pour pouvoir éclairer les opinions à travers le. Bien sûr, il n'y a pas mieux pour dans des enquêtes comme ça de travailler avec des journalistes qui connaissent vraiment l'environnement dans lequel ils évoluent, la culture, etc. Ils ont accès à des sources d'informations, ils sont sur place, et puis il y a des standards qui nous lient pour travailler ensemble. Oui, la confiance aussi.
Est-ce que vous avez déjà réfléchi, Lia Salas, à l'idée de créer un réseau de journalistes d'investigation au niveau local à Alger ou au niveau national autour de l'Algérie ?
En fait, pour être honnête, je n'ai pas pour le moment senti le besoin, parce que c'est pas parce que c'est tendance aujourd'hui qu'on fait des collaborations, etc., qu'on doit que multiplier les réseaux. En fait, les réseaux qui existent se croisent. Alors, tu peux trouver dans des réseaux régionaux, des membres de réseaux régionaux qui rejoindront un autre international et vice versa. En fait, un réseau, c'est un espace d'échange et de bonnes pratiques et de bons procédés entre journalistes, pas plus que ça. Donc,
merci beaucoup Lia Salas d'être venu dans l'atelier des médias de RFI. Bonne suite dans vos enquêtes.
Je vous en prie, merci.
Et je précise à nos auditeurs que cet entretien a été enregistré jeudi 12 décembre, alors que se tenait en Algérie le premier tour de l'élection présidentielle.
RFI.
Je vais maintenant accueillir un dernier invité qui n'est autre que le directeur Afrique de CFI. Pierre Jalado, bienvenue sur RFI.
Merci.
Vous travaillez à CFI depuis 2011 et vous en êtes le directeur Afrique donc depuis fin 2013. La première question que j'ai envie de vous poser, alors vous n'avez pas connu ces 30 ans de CFI, mais quelles sont les tendances qui se dessinent au cours de ces dernières années ?
Alors, vous faites bien de le rappeler, j'ai pas connu CFI qui a eu d'ailleurs plusieurs vies, hein, puisqu'on a commencé comme une télévision, ensuite on a été un distributeur de programmes, et puis 2015, parce que c'était le moment de le faire, on a commencé d'intervenir dans le domaine de l'aide publique au développement, médias, en accompagnant les médias, en les accompagnant à devenir des vrais acteurs du développement, des vrais acteurs de l'intermédiation entre les autorités de leur pays, les citoyens, de répondre vraiment aux aspirations des citoyens. Donc c'est venu d'une certaine façon avec les demandes qui émanaient de la société civile en Afrique, et les discussions qu'on avait qui étaient nourries, et bien entendu avec les médias. Donc on est passé finalement d'une agence qui n'accompagnait en distribuant des programmes que les médias publics, médias d'État, à une agence qui finit par accompagner davantage les médias issus de la société civile ou qui étaient plus dans une démarche de dialogue avec la société civile.
Ça veut dire quoi ? Des blogueurs par exemple ?
Bah, ça veut dire des blogueurs, des influenceurs, des médias communautaires, des médias qui répondent vraiment aux attentes sur des questions de gouvernance démocratique, d'environnement, de place de la femme, des questions de développement.
Y a-t-il un point commun entre tous ces projets, tous les gens qui viennent vers CFI lorsqu'on vient vous voir en règle générale? Il y a déjà un projet qui a débuté ou alors parfois ça part vraiment de zéro, c'est juste une envie?
D'abord, je crois qu'il y a une conscience d'être un acteur au service des populations. Et ça, tous les médias partenaires, bénéficiaires de CFI ont ça en commun. Ce ne sont pas des médias qui relaient la parole du chef d'État exclusivement ou disons qui produisent une information purement descendante. C'est aussi des médias qui viennent challenger leurs autorités, donc qui ont une vraie conscience du métier de journaliste que je viens de décrire. Ensuite, comment se fait un projet? Ben, on en discute, on fait des études, on va sur le terrain, on rencontre les gens, on n'est pas, j'allais dire, derrière un bureau à penser à la place de nos bénéficiaires en Afrique, tiens, on va leur faire un truc sur l'environnement, tiens, la place de la femme mériterait d'être un peu mieux traitée, donc on va faire quelque chose. Non, c'est un dialogue permanent. Alors, évidemment, il faut bien se donner des limites de temps. Donc, on commence à instruire un projet. Et puis, au bout de 3, 4, 6 mois, on a un projet abouti qu'on partage et qu'on discute avec les acteurs de terrain, mais évidemment aussi avec les autorités. Hein, et on peut comme ça lancer le projet.
Une mission d'accompagnement comme ça d'un projet, c'est sur combien de temps en règle générale? 1 an, 2 ans, 3 ans?
Ça dépend des opérateurs. Disons que à CFI, on travaille entre 12 mois pour les plus petits projets jusqu'à 4 ans, 5 ans. Il y a des projets dans d'autres zones, hein, du côté de la Méditerranée qui font 5 ans. On commence un projet avec un financement de l'Agence française de développement, l'AFD. Mais pour le reste, ça varie entre 1 an et demi et 3 ans.
Et sur une mission d'accompagnement lambda, y a-t-il un moment où vous vous dites « Ah, ça y est, on le tient, on a réussi, c'est un succès ».
Alors ça, c'est une question, j'allais dire, un petit peu piège, parce que tout ce qui touche à l'humain ou à la gouvernance ou changement de mentalité, changement de comportement, c'est extrêmement difficile d'évaluer la réussite, l'efficience, l'efficacité d'un projet. On pourrait dire qu'il y a plusieurs niveaux, mais à partir du moment où les médias qu'on accompagne commencent à produire des choses de meilleure qualité, qui correspondent plus à un esprit de dialogue, de concertation avec différents acteurs de public, la société civile. Bon, là, on aurait déjà quelque chose de construit et ça serait déjà un indice de réussite. Après, si les populations qui écoutent les programmes agissent d'une certaine façon vers ce à quoi on aspire à les accompagner, alors là, ça serait pleinement réussite, mais ça serait vraiment orgueilleux, je pense, de penser ça, parce que on n'est qu'une des briques parmi des politiques publiques, l'éducation, les services aux citoyens. Donc, je pense que ça serait erroné de penser qu'on peut résoudre tous les problèmes. En revanche, on est une partie de la solution.
Pour ces 30 ans, vous organisez donc ce gros événement, ce forum médias et développement. L'idée, c'était quoi? De faire un échange pour décloisonner ou faire qu'il y ait un partage de pratiques, de savoir sur les difficultés, sur les réussites entre tous les projets que vous avez accompagnés au fil de ces dernières années?
Tout à fait. L'idée de ce forum, c'est d'échanger sur les bonnes idées, les bonnes pratiques, ce qui a moins marché, parce qu'il faut aussi retenir les échecs et puis en tirer toutes les conclusions, afin de ne pas les reproduire. Et puis, c'est une respiration pour aussi des journalistes qui viennent parfois de zones extrêmement difficiles, qui ont du mal même à faire leur métier. C'est une respiration parce que, par ailleurs, les journalistes sont tout le temps dans le rush, ils sont tout le temps à produire, à diffuser, à repartir sur le terrain, enfin, vous le savez mieux que moi, et à un moment, il faut aussi pouvoir s'asseoir, discuter, comprendre l'évolution de notre métier, comprendre comment les médias, comment le numérique modifie aussi le métier, comment l'intrusion des fake news nous oblige à revoir un peu le métier de journaliste. Voilà, donc il faut ce temps et je pense que c'est absolument nécessaire. D'ailleurs, c'est l'idée et puis c'est très amical. Hein. Ce sont des amitiés qui se créent, c'est des gens qui se retrouvent. Voilà, les gens, je pense, prennent un grand plaisir à venir et à revenir parce que c'est pas la première fois, c'est pas le premier forum.
Et pour les porteurs de projets qui nous écoutent là sur RFI, comment peuvent-ils prendre contact avec CFI?
Alors, CFI lance des projets et pour ce faire, lance des appels à candidature. Donc, une fois que le projet est créé, sur le site de CFI, cfi.fr, on met en ligne les prérequis pour répondre aux appels à candidature sur des sujets, alors sur les thématiques aussi variées que la lutte contre les fake news, avec un projet qui s'appelle Verifox, qui vient de commencer. On s'apprête à lancer un grand projet d'accompagnement de la Civic Tech, hein, qui s'appelle Connexion Citoyenne, et on va commencer par un MOOC à destination de toute l'Afrique francophone. Voilà, et à l'issue de ce MOOC, on va lancer un appel à candidature. Évidemment, j'invite tous les auditeurs qui sont intéressés par la Civic Tech à postuler.
Merci beaucoup, Pierre Jaladeau.
Merci.
Je rappelle que vous êtes directeur Afrique de CFI. C'est avec vous que s'achève cet atelier des médias, exceptionnellement délocalisé au Forum Médias et Développement organisé par CFI. L'émission que vous venez d'entendre a été réalisée par Simon De Creuse. Bertrand Éclair était à la technique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. Et si ce n'est pas déjà chose faite, vous qui nous écoutez à la radio, abonnez-vous au podcast de l'atelier des médias.